Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais faire avec vous une première lecture, une promesse dans le psaume 32, une promesse merveilleuse. Je sais que vous aimez les promesses, non? Vous aimez les commandements ou les promesses? Les deux, c'est bien, ça c'est bien répondu. Psaume 32, verset 8. C'est une parole qu'il faut prendre ses promesses de manière sérieuse et comprendre ce que quand Dieu dit quelque chose, il le dit pour qu'on le saisisse véritablement. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est surtout cette dernière partie de phrase que j'aimerais partager avec vous ce soir au travers d'une autre expérience. J'aurai le regard sur toi. Vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous croyez que c'est une parole que Dieu veut vous adresser ce soir d'une manière personnelle? J'aurai le regard sur toi. Nous allons faire une autre lecture qui correspond à un chant que nous avons chanté dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 45. Marc chapitre 6, verset 45. Une de ces tempêtes dans la Bible où nous voyons ce que le Seigneur Jésus a fait pour aider ses enfants. Marc chapitre 6, verset 45. Aussitôt après, dans la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux, dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Ils n'avaient pas compris. Tout à l'heure, M. Ollet, dans la réunion des frères, a commencé l'exhortation par une question qu'un homme a posée à un autre. Comprends-tu ce que tu dis ? Comprends-tu ce que tu dis ? Est-ce que nous comprenons toujours ce que nous lisons ? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ? Est-ce que nous comprenons les histoires de la parole de Dieu ? En tous les cas, le message que j'aimerais partager avec vous ce soir est résumé au verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Le Seigneur voit quand nous avons de la peine. Nous enseignons beaucoup à regarder à Jésus. Nous avons beaucoup de textes qui nous enseignent combien c'est important de regarder à Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est important de prendre des textes qui nous encouragent et qui nous exhortent à regarder au Seigneur. C'est très important. C'est important d'aider les chrétiens à regarder à Jésus. Mais laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus encourageant de comprendre quel est le regard de Dieu sur notre vie. J'ai pris ce texte du psaume 32, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, où le Seigneur nous promet qu'il aura les regards sur nous. C'est très important de comprendre que le Seigneur, il nous voit. Ce soir, il nous voit, on l'a chanté, Dieu te voit et il t'entend. Alors comme beaucoup de chants, on peut chanter de beaux cantiques qui ont une très très belle mélodie. La mélodie pourrait nous en faire oublier la profondeur des paroles. Mais quand même, ce matin, quand je priais, ce verset s'est imposé à mon cœur, j'aurai le regard sur toi. Et je savais que c'était cette exhortation que peut-être quelqu'un a besoin ce soir, que vous sachiez que Dieu vous voit, que Dieu sait où vous en êtes. Oui, Dieu dit, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi qui, pour vous faire plaisir, j'aurai le regard sur toi. Quelle histoire ! Quelle histoire, comme tant d'autres, qui nous montre que Dieu s'occupe de nos misères. Nous, quand on est dans la misère, on se dit, oui, mais Dieu, est-ce que Dieu entend? Oui, d'accord, c'est bien joli, Dieu te voit, Dieu t'entend. Mais il est dit qu'il est attentif à la prière des misérables. Ça vous rassure?
Moi, ça me rassure.
Des fois, je dis, oui, mais comment tu veux que Dieu entende ta prière? T'as vu dans quel cinéma tu vis? Ah, c'est sûr que si on fait du cinéma, ça ne va pas marcher. Mais on peut être vraiment dans la misère. Et moi, j'aime ce texte quand il est dit, il est attentif à la prière du misérable. C'est dans le psaume 102, verset 18. Donc, cette histoire, elle est là, qui ne connaît pas cette histoire de cette tempête? Combien de livres, combien de prédications ont pu être faites à partir de ce fameux récit? C'est extraordinaire. Mais c'est ça, nous on peut croire qu'on est seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croire que Dieu vous avait abandonné? Allez, soyons honnêtes. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont dit « Oui, le Seigneur m'abandonne ». Est-ce que quelqu'un l'a dit ça? Le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Est-ce qu'il y a des textes bibliques où c'est écrit? Nadège, il faut m'aider, je ne sais pas. Hein? Petite fille de pasteur, vous devez m'aider. Alors on va lire un texte par exemple dans Ésaïe 49. C'est important parce que quand on parle trop vite, on dit des bêtises. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Quand on parle vite, je disais dans ma précipitation, c'est David qui parle, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de toi. Vous voyez, quand on parle vite, des fois on a dit des choses, bon, le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait, regardez Job, quand il dit mon âme est dégoûtée de la vie. Est-ce que bon, ça se comprend que Job puisse dire mon âme est dégoûtée de la vie. Est-ce que Dieu le lui reproche? Jamais. Dieu ne le reproche pas. Mais on peut se tromper et prendre de mauvaises décisions. Dans Ésaïe 49, regardez, c'est un des textes, je vous assure, il n'y a que l'embarras du choix. Ésaïe 49, voyez verset 14. Si on disait, donc c'est Israël, le peuple de Dieu, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Vous voyez ce qu'on peut dire lorsqu'on traverse des épreuves, et c'était pas un qui le disait, c'était tout le peuple de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Allusion à toute l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois de la croix, parce que ce n'est pas des paroles. Nous, on peut dire à quelqu'un, je ne t'oublierai pas, t'inquiète pas, je serai toujours là. Bon, mais est-ce qu'on peut oublier quelqu'un, nous? Oui, mais quand Dieu dit, je ne t'oublierai pas, moi, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains, on va très loin, puisqu'on entre vraiment dans la perception de l'œuvre de la croix. Dont les disciples, on l'a lu, les disciples, ils se croient seuls. Ils se croient seuls, pourtant ils sont en train d'obéir, puisque Jésus leur avait dit, il obligea les disciples à monter dans la barque. Donc, ils étaient en train d'obéir. Quelqu'un m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, oui, quand on obéit à Dieu, on n'a pas d'épreuve. Ah, écoutez, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ils étaient vraiment en train d'obéir, puisque Jésus leur avait donné l'ordre de traverser le lac. Ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu qu'on n'a pas d'épreuve. Une chose est certaine, on peut avoir des épreuves quand on obéit, on peut avoir des épreuves quand on n'obéit pas. Joseph était en train d'obéir à Dieu, et laissez-moi vous dire qu'il a eu 13 années d'épreuves terribles. Ne nous formalisons pas avec ces affaires-là. Dieu sait les épreuves que l'on doit traverser. En tous les cas, c'était la quatrième veille de la nuit, 3h du matin. Bon, il y a des jours ou des nuits qui peuvent paraître longues. Il y a des épreuves qui peuvent paraître longues. Quelqu'un qui attend pour se marier depuis 7 ou 8 ans, est-ce que ça peut être long? En tous les cas, les disciples, ils se croient seuls. Et c'est exactement ce que le diable veut, c'est qu'il arrive à un moment donné, où dans l'épreuve, quelle que soit la durée, on se croit seul à lutter, que moi qui lutte, les autres y compris, ils peuvent pas me comprendre, voilà, Dieu même sait pas, Dieu m'oublie, voilà, Dieu m'a abandonné, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc., etc. Mais ce texte, le verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu, il sait où vous en êtes. Comme disait Lucas, il faisait allusion à ce verset biblique, derrière un rire peut se cacher beaucoup de chagrin. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. On n'a peut-être pas envie d'expliquer le chagrin qu'on traverse. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je vous assure que pendant des années, j'étais malheureux, et je n'exprimais, personne ne le savait. Je ne pense pas, par ma femme, je ne pense pas que beaucoup de chrétiens le savaient. Ce n'était pas ici, mais en fait, ce n'est pas grave. Et je ne me sentais pas du tout un hypocrite, c'est que je n'avais même pas envie d'en parler, parce que ça m'aurait fatigué d'en parler. Vous voyez un petit peu? Bon, ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. Mais est-ce que Dieu le savait? Je peux vous dire que oui, Dieu savait dans quel état était mon cœur. Et cette histoire, elle est là pour que nous comprenions que lui, il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il sait les efforts qu'on est en train de fournir. Parce que là, ils ont dû... ils avaient de la peine à ramer, indique tous les efforts que l'on fait quand on est dans la difficulté. Parce qu'on peut en faire dans le jeûne, dans la prière, dans le souci d'obéir, dire voilà, il faut que j'y arrive. On est là, on ne calcule pas tout. Je ne sais pas si vous avez traversé des tempêtes, des orages. Moi, à l'armée, je me souviens avoir traversé une tempête. Pourtant, c'était un bateau de guerre. Pour faire 200 km, on avait mis 24 heures avec un bateau de guerre. Ça vous donne une idée de la tempête qu'il y avait. C'était un truc de malade, un truc de fou. Et on ne peut pas calculer la violence d'un orage, la violence et les efforts que l'on doit faire. Rien que pour se tenir au bateau, c'était déjà un effort pas possible. Et puis le courage intérieurement. Bon, les efforts que l'on fait extérieurement, on peut voir, on pourrait dessiner des apôtres en train de ramer dans la tempête, mais le courage c'est quelque chose d'intérieur. Le courage qui baisse, c'est quelque chose de terrible. Les forces qui diminuent. Parce que là, ce soir, peut-être, moi, j'ai des forces, j'ai 30 ans, j'ai des forces physiques. Oui, mais il peut y avoir des forces physiques qui diminuent, des forces spirituelles qui diminuent, les doutes qui commencent à s'installer. Tiens, j'obéis, mais je traverse une tempête, c'est pas normal. C'est pour ça qu'ils en étaient arrivés à dire, oui, le Seigneur m'abandonne. Pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu plus tôt? Est-ce que Jésus aurait pu intervenir plus tôt? Est-ce que Jésus pourrait intervenir maintenant? Est-ce que Jésus peut intervenir ce soir dans ma vie? Oui. Est-ce qu'il le sait quand est-ce qu'il doit intervenir? Écoutez-moi bien. Cette histoire, qui a été prêchée de mille et une façons différentes, nous rappelle une chose, c'est que le Seigneur sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Il sait à quelle heure de la nuit vous vous trouvez, si c'est 1h du matin. Bien sûr que pour nous, on aurait pu dire, tiens, il est intervenu à la quatrième veille, à 3h du matin, mais il aurait pu intervenir à minuit. Oui ou non? Est-ce que Jésus aurait pu intervenir à minuit? Est-ce que c'est... Oui, bien sûr que oui. Mais il sait. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il va faire. Et ce que vous devez savoir au travers de cette histoire, c'est que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tempête, il va vous rejoindre. J'aurai le regard sur toi. C'est très très important de le comprendre. C'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur va me rejoindre. J'ai cette épreuve, je suis en train d'obéir à Dieu, je ne comprends pas, pour moi, 3 heures du matin, c'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en suis là? Quelqu'un me disait tout à l'heure, je me culpabilise de ce qui m'est arrivé. Vous voyez, et puis ça peut être une fausse culpabilité. Parce que comme je l'ai dit mardi, il y a la vraie culpabilité et il y a la fausse culpabilité. Mais nous, par exemple, on a lu l'histoire. Vous la connaissiez cette histoire? Est-ce que vous la connaissiez? Oui. Quand on connaît la fin, c'est exactement comme si Jésus était déjà là. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on connaît l'histoire de Joseph, quand on connaît l'histoire de Moïse, on ne pense pas, on sait comment ça va se terminer. Quand on connaît l'histoire de David, comment Goliath a terminé, quand on lit une histoire, on sait déjà que Dieu est vainqueur. C'est l'avantage, et il y a des inconvénients, c'est que ça enlève toute la saveur de l'histoire, parce qu'on sait comment ça se termine. Mais en même temps, quand on connaît la fin, c'est très enthousiasmant, parce qu'on sait que c'est un petit peu comme si le Seigneur était déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit l'histoire de Joseph, et quand on sait comment il va terminer, on dit, mais Joseph, t'inquiète pas, ça va bien se terminer. C'est un côté qu'on peut quand même développer. Parce que c'est un petit peu comme si le Seigneur était déjà intervenu. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Ça nous montre que Dieu, il apprécie exactement la situation. Il sait exactement. Nous, on peut dire, oui, mais Dieu m'abandonne. On voit bien que Dieu leur en a pas tenu grief. Si vous lisez le livre de Job, à la fin, il parle aux trois amis de Job, il dit, mais vous n'avez pas parlé comme il fallait. Tandis que mon serviteur Job a été juste, a parlé d'une manière juste. Et pourtant, quand il dit « mon âme est dégoûtée de la vie », on pourrait dire « Job, là, tu vas un petit peu loin dans tes propos ». Mais il dira « c'est à cause de la souffrance que j'ai parlé comme ça ». Parce que quand on souffre, des fois on dit des choses, et je crois qu'il n'y a que Dieu qui sait exactement ce que l'on dit quand on souffre. Mais ce regard, il vit qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Ça nous montre que Dieu sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, et que ça nous parle bien sûr de délivrance. L'œil de Dieu qui voit tout. Tout à l'heure, je regardais dans ma concordance, parce qu'il y en a des textes qui nous parlent du regard de Dieu. Si vous avez une concordance, amusez-vous à regarder tous les textes qui parlent du regard de Dieu. C'est très 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 encourageant. Ce regard de Dieu qui voit tout. Bien sûr que vous entendez peut-être les autres autour de vous, qui vont vous dire que Dieu ne vous aidera pas. Ce matin, j'étais dans un magasin, j'ai commencé à parler de Dieu à un gars, et il me regarde, de toute façon, moi je sais une chose, c'est que si j'ai un problème, Dieu ne m'aidera pas. Oui, il a été très clair. Si j'ai un problème, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu ne m'aidera pas. Alors après, il s'est levé parce qu'il allait chercher un renseignement, donc je n'ai pas pu continuer la discussion. J'ai compris qu'il ne voulait pas, lui, continuer. Mais que c'est triste. Est-ce que ce soir, vous dites, je sais que Dieu ne m'aidera pas? Ou est-ce que vous dites, mais non, cette histoire, elle est là. Elle est là pour m'instruire et pour me rappeler que Dieu me voit. Oui, même si les autres disent que Dieu ne s'occupera pas de moi, il est là, tout près. C'est Paul qui dit dans une épître, le Seigneur est proche. Il ne parle pas du retour. Il parle de la proximité du Seigneur, qu'il est à, ça veut dire proche, ça veut dire à portée de la main. Ce soir, j'aimerais vous le rappeler, que le Seigneur, il voit, il vous voit. Vous êtes proche de lui, alors peut-être, mais pourquoi tu n'es pas encore intervenu? Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous? Tiens, si vous deviez m'aider à faire la prédication, parce que vous êtes capable de m'aider, oui ou non? Vous êtes capable, je le pense. Franchement, pourquoi Dieu n'intervient-il pas maintenant? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas à 3h du matin, ou à 2h30, ou à 2h? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Eh bien parce que si vous lui faites confiance, il sait le temps où il doit agir. Il le sait. C'est ça la confiance. Seigneur, tu sais quand est-ce que tu dois agir. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à lutter? Parce qu'ils luttaient là, ils ont lutté vraiment. Oui ou non, avec leur âme. Ils ont vraiment lutté. C'est des moments physiquement, émotionnellement, psychiquement et spirituellement, c'est des moments extrêmement difficiles. Mais si le Seigneur n'est pas intervenu, peut-être qu'il veut nous apprendre justement à combattre le bon combat et pas à lutter inutilement. Il sait que s'il doit intervenir à la quatrième veille, il interviendra à la quatrième veille. Dans la vie de Joseph, Dieu a attendu 13 ans. Est-ce que c'est beaucoup 13 ans d'épreuve? Abraham, il a attendu combien d'années d'avoir un enfant? 25 ans. Bon, il aurait pu attendre, il aurait pu faire moins. Dieu sait exactement quand est-ce qu'il doit intervenir. Et cette histoire, elle nous apprend que de notre côté, bien sûr qu'on va essayer de faire tout ce qu'on peut. Mais ça ne nous autorise pas à penser que Dieu va nous abandonner. Ce n'est pas possible. Bien sûr que cette histoire, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que la nuit, la ténèbre, la tempête, la fatigue, etc. Peut-être que... Est-ce que Dieu nous voit vraiment? Est-ce que Dieu nous voit? Moi, il y a des gens, mais je ne suis pas sûr que Dieu me voit. C'est sûr que c'est beau de chanter quand tu pries, Dieu te voit et il t'entend. C'est tiré de Matthieu chapitre 6. Dieu te voit, il t'entend. Oui, il te voit. Est-ce que vraiment Dieu me voit? Eh bien oui, cette histoire, elle est là. On pourrait prendre plein de textes. Pour ceux qui prennent des notes, vous lirez dans le psaume 11, verset 4, le psaume 14, verset 2, le proverbe 15, verset 3, et vous prendrez une concordance, et vous verrez. Donc, le Seigneur vous voit. Il vous voit, et il va vers vous. Il va vers eux. Ouais. Il va vers vous. Ce soir, je voudrais vous rassurer. Quand j'ai prié, que j'avais ce verset, cette promesse qui s'est imposée à mon cœur, j'aurai le regard sur toi, je savais que quelqu'un ce soir doit réaliser, mais vraiment d'une manière sérieuse, pas d'une manière poétique comme les beaux cantiques qu'on a chantés et qui doivent nous permettre justement de réaliser ce qu'on est en train de prêcher. Jésus voit, Jésus sait et il a été vers eux. Jésus viendra vers vous. Quand il est venu à la croix, il a montré qu'il voulait venir vers nous. Vous savez, moi, quand on parlait de la création, tout ça, Dieu a créé le monde. C'est vrai que Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé les cieux, la terre, chaque oiseau, chaque fleur, chaque parfum, chaque couleur, enfin, tout ce que Dieu a créé, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est inouï. Mais franchement, je pense que ça n'a pas dû lui coûter grand-chose. Même de créer l'homme. Pourtant, l'homme, c'est quand même une mécanique un peu compliquée. Vous êtes d'accord? Mais je ne pense pas que ça lui a coûté. Par contre, pour que l'homme puisse renaître de nouveau, là, ça lui a coûté. Vous avez compris? Dieu a parlé, Dieu a créé l'homme. C'est sûr que la création même d'une simple libellule, c'est déjà un truc pas mal. Essayez d'en faire une, vous allez voir que c'est quand même, je pense que ça va être difficile. Mais pour que l'homme puisse naître de nouveau, renaître, moi, je trouve que là, il a dû payer cher. Ça lui a coûté beaucoup. Et c'est toute l'œuvre de la croix. Et ça nous prouve une chose, que Dieu est venu vers l'homme. Il est venu vers nous d'une manière générale. Mais il est venu vers nous. Et l'histoire de la croix nous prouve que cette histoire est la vérité. Que si Dieu est venu vers l'homme pour le sauver de ses péchés, à combien plus forte raison il va vous rejoindre dans chacune de vos affaires. La croix, son amour, sa souffrance nous prouvent qu'il ne peut pas faire autrement que de nous rejoindre lorsque on s'attend à lui, et même si on ne s'attend pas à lui. Les 10 dans la chambre haute, est-ce qu'ils s'attendaient à lui ou est-ce qu'ils s'attendaient plutôt à se faire arrêter par les pharisiens? Moi je pense que ce soir-là, ils s'attendaient beaucoup plus à se faire arrêter par les pharisiens. Qui c'est qui les a rejoints? Le Seigneur Jésus. Au moment où il fallait, c'était vers le milieu de la nuit. Pourquoi Jésus ne les a pas rejoints dans la matinée? Est-ce que Jésus aurait pu les rejoindre en premier? Est-ce que Jésus, franchement, ça tient debout? Est-ce que Jésus, le jour de la résurrection, n'aurait pas pu d'abord rejoindre les pasteurs qu'il est en train de former en premier? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aurait été logique s'il était écrit que les premières personnes à qui Jésus est apparu, ce n'est pas Marie de Magdala, ce n'est pas des femmes, mais les pasteurs? Oui, voyez? Et pourtant, il les a rejoints, c'est écrit vers le milieu de la nuit. Ils avaient peur, il les a rejoints. Ils étaient à leur place. La chambre haute, quand même, nous prouve qu'ils étaient à leur place. Comme nous, ce soir, c'est pas une question de nombre, c'est vrai que ça peut jouer, mais au-delà du nombre, il y a une grande vérité, c'est que Dieu honore la foi des gens. Et que, quel que soit le nombre de gens, et s'il y avait une personne, c'est sûr que s'il y avait une personne, on saurait à qui la prédication s'adresse en particulier. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur sait comment nous rejoindre. Il sait comment nous rejoindre. Les disciples d'Emmaüs, paf, il les a rejoints, ils étaient en train de quitter Jérusalem, ils abandonnaient déjà, ils étaient déjà en vrac. Et pourtant, Jésus les a rejoints. Il savait quand, il sait exactement. Et cette histoire, elle est là, on pourrait donner comme titre à cette histoire, courage, les vagues sont hautes, c'est vrai que les difficultés sont là, la barque se remplit, tout ce que vous voudrez, mais Dieu va vous rejoindre. Pourquoi? Pour établir le calme. Vous avez vu le verset 51, comme on l'aime? Il monta vers eux dans la barque. Et le vent, c'est ça. Voilà, ça devait être... Moi, j'aimerais que Spielberg... J'aimerais qu'il se convertisse pour faire des films extraordinaires sur la vie de Jésus. Mais c'est vrai, il ferait des trucs formidables. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte la beauté de cette histoire? Vous croyez que c'est vrai, cette histoire? C'est exactement ce que Dieu peut faire. Il le fera à 1h, ou à 2h du matin, ou à 2h de l'après-midi, ou à 4h, mais il le fera. Il faut tout simplement croire qu'il a les regards sur vous, qu'il est ce Dieu, qu'il sait quand est-ce qu'il doit intervenir, même si vous êtes épuisé, même si vous en avez marre de ramer, si vous obéissez à Dieu, il vous rejoindra. Il veut rétablir le calme. C'est un principe biblique, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu veut du calme. Alors il est dit qu'ils furent remplis d'étonnement. Voilà, mais ça change de la barque remplie d'eau, ils vont être remplis d'étonnement. C'est ça que Dieu veut. C'est que vous votre regard, c'est important votre regard. Mais je vous assure, le plus important, c'est le regard du Seigneur. Vous devriez être rassuré. Bien sûr que nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Nous devons prier pour avoir un collyre sur nos yeux. Nous devons prier pour comprendre la parole de Dieu. C'est important qu'il y a des chrétiens, ils ont 20 ans de conversion, ils comprennent rien à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils la lisent sans la lire. Comme disait Monsieur Olé tout à l'heure, certains même la lisent en diagonale. Et c'est vrai cette histoire. Moi j'ai vu un commentaire, un gars qui disait, si vous n'avez pas le temps, lisez la Bible en diagonale. Oui, vous lisez un mot, trois mots par-ci, par-là. Mais c'est un ridicule, pas possible. Mais votre regard, alors ne pensez pas que c'est en contradiction avec ce que j'enseigne. Votre regard est très important. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes, ça veut dire, mais regardez au Seigneur. Mais c'est bien. Mais vous devez surtout être rassuré par son regard. Il ne vous abandonnera pas. Il est votre Père. Vous voyez, vous êtes venu ce soir dans sa maison. Vous croyez que Dieu vous ne voit pas ça? Vous savez, il y a une année, il y a 7 ou 8 ans de ça. Il y a 7 ou 8 ans de ça, je me rappelle, il y avait 7 ou 8 personnes qui voulaient prendre le baptême. Et c'est un moment où je m'interrogeais sur les réunions du jeudi, parce qu'on était encore, on était beaucoup plus nombreux, on était 30, 40, mais moi je trouvais qu'on n'était pas nombreux. Et je me dis, tiens, est-ce que tu devrais pas peut-être voir pour les réunions du jeudi soir. Et aux instructions sur le baptême, je leur pose à tous la question, quelle est la première expérience que vous avez faite? Quand est-ce que vous avez été béni par Dieu? Et tous, les uns après les autres, Monsieur Gou, un jeudi soir, je suis venu à l'imposition des mains, le Seigneur m'a guéri. Un jeudi soir, je suis venu, on n'était pas nombreux, mais le Seigneur m'a convaincu de péché. Tous avaient été bénis un jeudi soir. Et je crois que Dieu a voulu me donner une leçon, à moi en premier, pour me montrer que c'est d'un ridicule total que de regarder au nombre. À partir du moment où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu de nous et il veut nous bénir. Et ce qui est important, ce n'est pas notre regard sur l'Église. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne que quand Dieu dit « j'aurai le regard sur toi », ça veut dire qu'il aura le regard sur toi. Et que Dieu ne peut pas nous mentir. Ce qu'il a dit, il l'a dit. S'il y a des choses sévères d'un côté que Dieu a dites et qui peuvent peut-être nous déranger, en tous les cas, j'espère que les promesses de Dieu ne vous dérangent pas, mais qu'elles vous rassurent. Oui, j'aurai le regard sur toi. Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur. Sur celui qui souffre. Oui, alors que nous, on est capable de dire, si tu souffres, ben, c'est que tu as un problème. Sur celui qui souffre, il ajoute, et celui qui craint ma parole. Et quand Dieu le dit, vous pouvez le croire. C'est vrai que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voilà. Nous, on regarde au nombre, on regarde à l'apparence. Tiens, cette personne, elle, ceci, cela. Oui, l'homme regarde, c'est un piège. Même Samuel, le grand homme de Dieu, a dû s'entendre dire de la part de Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Parce que quand Samuel a vu Eliab, il a dû se dire, oh, ce gars, il est grand, il ressemble à Saül. Oui, il doit faire l'affaire, c'est lui qui va être le roi d'Israël. Et Dieu l'avait rejeté parce que Dieu voyait dans le cœur de ce garçon l'orgueil qu'il y avait. Mais voyez, Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence. Nous, c'est un piège. On est conditionné comme ça. On regarde à l'apparence. Quelqu'un a telle apparence, alors on le croit peut-être zen, on le croit intelligent parce qu'il s'exprime bien, etc. etc. Je suis désolé, mais ce n'est pas l'apparence qui détermine la personnalité et surtout la spiritualité de quelqu'un. Vous voyez, l'homme regarde au cœur. Alors, ce n'est pas pour nous humilier, c'est pour nous informer. Dieu regarde au cœur. Et voyez, on va terminer avec un verset dans Luc 22. Je prends ce texte parce que le regard de Dieu, il y en a des dizaines et des dizaines, sinon des centaines. Dans Luc 22, au verset 61, il y a ce texte. Voyez, c'est tout simple. Hein Luc 22, j'avais que la mare du choix, c'est clair. Voyez, c'est quand Pierre a renié Jésus, lui qui avait dit que, bien sûr, les autres, mais pas lui. On va lire le verset 60, Luc 22, 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, jugea Pierre. C'est ça que vous avez dans votre Bible ? Regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Oui, bien sûr qu'on peut tous imaginer avec une délicatesse totale, une tendresse totale, la façon dont Jésus a regardé Pierre. Je ne sais pas comment il a regardé. Avec des yeux méchants. Non, mais c'est quand même écrit, le Seigneur s'est retourné et il a regardé l'apôtre Pierre. Moi, je ne crois pas que c'est pour le juger. Est-ce que vous croyez que c'est pour le juger? Franchement, non. Je crois qu'il s'était déjà jugé, la preuve. Mais il avait une fois de plus vérifié ce que nous avons enseigné ce soir, c'est que Dieu aura le regard sur nous, quelles que soient les épreuves que l'on doit traverser. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et je voudrais ce soir que vous rentriez chez vous avec cette joie d'avoir vos yeux fixés sur le Seigneur, c'est clair, mais d'avoir cette confiance que ses regards sont sur vous. Et même s'il y avait des erreurs de fait, le Seigneur sait exactement quand est-ce qu'il doit nous rejoindre, à quelle heure, quel jour, quel mois, quelle année. Faites-lui confiance. Si Dieu dit « j'aurai le regard sur toi », il n'est pas un homme pour mentir. Il aura le regard sur vous. Faites-lui confiance. Attendez-vous à lui. Si vous devez pleurer, eh bien pleurez. Pierre a pleuré, je pense qu'il a pleuré d'ailleurs. Quand on voit Pierre juste après, c'est que ce regard a dû le toucher profondément. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas besoin de 36 000 paroles. Un mot, Un mot, il n'y a que lui qui est capable. Un mot, il a calmé la tempête. Bon, là, on le voit. Il est rentré, le vent s'est tu. Ailleurs, il dit tais-toi. Tais-toi, pour calmer une tempête. Vous voyez que Dieu n'a pas besoin de. Nous, il nous faut demi-heure pour expliquer un verset. Mais Jésus, en un mot, il peut, il a créé l'univers. Bon, je pense qu'en deux mots, il peut nous calmer. Tais-toi. Il y a une version qui dit tais-toi et laisse mes amis tranquilles. Et la mer s'est calmée. Qu'est-ce que c'est beau? Le regard du Seigneur sur nous. Que son nom soit béni. J'aurai le regard sur toi. Rappelez-vous de cette parole. Alors faites-lui confiance. Ne dites pas, Seigneur, il m'oublie, il ne s'occupe pas de moi. Non, non, faites-lui confiance. On termine en priant? Merci Seigneur Jésus pour chacune de tes promesses. Si tu le dis, nous savons que c'est vrai. Et s'il nous est agréable d'avoir nos yeux fixés sur toi, cela nous est 100 fois plus agréable encore de savoir que tu nous vois et que tu sais nous rejoindre et que tu sais ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Seigneur, oui, nous le croyons que tu nous vois et que tu nous entends. Et que tu nous vois nous débattre, et tu sais ce qui entre dans notre barque, et tu sais ce qui sort de notre cœur. Tu vois vraiment, Seigneur, où nous en sommes. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir rejoints, oui, sur la terre, pour donner ta vie sur le calvaire. Mais merci aussi individuellement de nous rejoindre dans toutes les situations compliquées que nous pouvons traverser. Et Seigneur, tu sais vraiment, surtout à qui s'adressait cette exhortation, mon Dieu, fais-lui grâce. Et donne-lui de serrer cette parole, cette promesse, cette exhortation dans son cœur, afin que cette grâce soit son partage. Oui, Seigneur, tu nous vois. Merci. Du fond du cœur, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.